Le journal Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Beaucoup reste à faire pour parvenir à un accord sur le Brexit. C'est ce qui ressort du sommet européen informel qui vient de s'achever à Salzbourg. Quentin Dickinson est sur place pour France Culture. L'OCDE revoit ses prévisions de croissance à la baisse. Elle souligne le risque que représente l'escalade des tensions commerciales et pointe les faiblesses de certaines économies émergentes comme l'Afrique du Sud et l'Argentine. Marine Le Pen refuse de se soumettre à un examen psychiatrique. C'est ce que prévoit la procédure pénale dans le cadre de la quête qui la vise pour diffusion de photos d'exactions de Daesh. La présidente du Rassemblement national qualifie la France de régime un peu inquiétant. Deux ours vont être réintroduites dans les Pyrénées occidentales dans les prochaines semaines. Les ONG se réjouissent. Les éleveurs locaux manifestent leur hostilité au projet. Le sommet du 18 octobre sera le moment de vérité pour le Brexit, prévient Donald Tusk. Le président du Conseil européen estime insuffisantes les dernières propositions de la première ministre britannique, Theresa May. Le Royaume-Uni est pressé par ses partenaires de revoir encore une fois sa copie. Quentin Dickinson, vous avez suivi le sommet européen informel qui s'est déroulé hier et aujourd'hui à Salzbourg, en Autriche. Les négociations sur le Brexit sont difficiles depuis le début, mais à l'approche de l'échéance, on a l'impression que les positions se durcissent encore.
Oui, c'est un peu ça. Theresa May qui réclame avec insistance davantage de souplesse de la part des 27. Donald Tusk qui ne voit de solution qu'à travers la révision en profondeur des propositions britanniques. C'est clair, on assiste en ce moment, des deux côtés, à un durcissement des positions. Mais dans les couloirs du Conseil européen, ici à Salzbourg, cela ne paraît ni surprendre ni émouvoir qui que ce soit. C'est qu'en réalité, ce durcissement arrange tout le monde, au moins temporairement. Il permet d'abord à l'Union européenne de s'en tenir à la lettre de la législation définie par l'article 50 du traité de Lisbonne et de maintenir sa miraculeuse unité vis-à-vis des prétentions britanniques. Il permet ensuite, et surtout, à Madame May, à quelques jours du congrès de son parti, de placer ses contradicteurs devant une alternative simple. Ou bien vous soutenez ma ligne, telle que je vous l'ai communiquée à Chequers, ou bien il n'y aura pas d'accord possible avec l'UE et vous en porterez la responsabilité. En gros, on l'a compris, elle leur dit « moi ou le chaos ». Enfin, cette perspective n'est pas pour déplaire non plus aux Brexiteurs les plus durs, puisqu'elle fait réapparaître l'éventualité de la formule qu'ils prônent depuis le début, c'est-à-dire la rupture nette et immédiate avec l'UE dès le 29 mars prochain. Tout mouvement sur le Brexit est donc gelé jusqu'au lendemain du congrès du Parti conservateur qui débute dans 10 jours.
Quentin Dickinson en direct de Salzbourg. Les services de renseignement britanniques sont pointés du doigt par la justice belge. Une enquête judiciaire sur le piratage de données de l'opérateur téléphonique belge Belgacom met en cause un service du gouvernement britannique chargé de collecter des renseignements électroniques. C'est ce que révèle le quotidien belge L'Écho. Et cette enquête, Pierre Benazet, est liée aux révélations faites en 2013 par le lanceur d'alerte Edward Snowden.
Effectivement, parce que c'est à partir du 6 juin 2013, on s'en rappelle, qu'Edward Snowden a commencé à transmettre des documents à la presse, notamment au Guardian et au Washington Post, mais aussi au site internet américain The Intercept. Et c'est dans les données fournies à ce dernier que figure la révélation de l'espionnage britannique en Belgique. Le 30 août suivant, d'ailleurs, les pirates informatiques mettent fin à l'opération, baptisée Socialists, et tentent de faire disparaître les preuves. Mais les enquêteurs belges retrouvent la trace d'ordinateurs liés au service britannique et des cartes de crédit venant du Royaume-Uni, des cartes de crédit prépayées utilisées pour louer des serveurs informatiques à travers le monde. Et c'est bien ce que montrent les documents fournis par Edward Snowden, à savoir des indications noires sur blanc d'un espionnage des communications téléphoniques et des données échangées par téléphone à travers les serveurs de l'opérateur téléphonique Proximus, qui se nommait alors Belgacom. Grâce à une présentation du centre d'analyse des échanges, qui appartient au Government Communication Headquarters à Londres, c'est-à-dire les services secrets extérieurs du Royaume-Uni pour les données, eh bien on a une indication concrète du fait que le Royaume-Uni tentait d'espionner les communications essentiellement par itinérance avec des interlocuteurs au Proche-Orient. C'est un rapport qui a donc été remis aujourd'hui au ministre de la Justice belge. Il va réunir bientôt le Conseil national de sécurité, une instance fédérale qui réunit tous les responsables des services de sécurité et du gouvernement belge.
Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Une minute de silence a été respectée cet après-midi dans la forêt de Hambach, dans l'ouest de l'Allemagne. Un instant de recueillement en hommage aux journalistes morts hier lors d'une opération de police destinée à évacuer les militants écologistes qui occupent le site depuis plusieurs années. La forêt de Hambach, près d'Aix-la-Chapelle, est considérée comme une ZAD, une zone à défendre par les écologistes qui s'opposent à un projet de déforestation. Les opérations d'évacuation sont suspendues depuis le décès du jeune homme victime d'une chute accidentelle. Ludovic Piétenu, vous êtes notre correspondant en Allemagne. Alors, il s'agissait d'un journaliste blogueur qui soutenait la cause des militants écologistes.
Oui, un journaliste blogueur, effectivement, militant de 27 ans, qui publiait énormément de vidéos sur YouTube, sur Twitter. Il était passionné d'escalade, très à l'aise au sommet de ces arbres. Il faut imaginer cette forêt d'Ambar où les militants ont installé petit à petit depuis 6 ans un village de cabanes reliées entre elles par des ponts suspendus. Cet homme était aussi connu comme réalisateur et il voulait, avec sa GoPro fixée sur son casque, médiatiser le combat de ses militants. Un combat contre la déforestation, pour l'agrandissement d'une mine voisine. C'est une mine de lignite, un charbon de moins bonne qualité et très polluant qu'utilise encore énormément l'Allemagne. Autour de 22% de sa production d'électricité, le pays est le premier producteur mondial et ces mines à ciel ouvert sont géantes. Elles prennent énormément d'espace. Il faut imaginer des surfaces parfois supérieures à une ville française comme Lyon. Et les bulldozers n'hésitent pas pour s'agrandir à détruire, comme ils l'ont fait en début d'année, une église ou, comme ici, la forêt d'Ambar, l'une des plus vieilles du pays. Plus de 12 000 ans, car en Allemagne, l'État peut faire prévaloir l'exploitation du sol sur le droit de propriété. Ce lieu devient alors très symbolique, y compris en France, auprès des militants écologistes. Ce sont des questions importantes qui sont soulevées ici, la question énergétique, climatique, écologique. Les militants ont remis ce matin 500 000 de signatures auprès du gouvernement régional.
Ludovic Piétenu, l'OCDE met en garde sur le ralentissement de la croissance de l'économie mondiale. Elle pourrait avoir passé son pic, selon l'Organisation de coopération et de développement économique, qui a revu en légère baisse ses prévisions pour 2018 et 2019. L'OCDE pointe les tensions commerciales accrues qui se répercutent sur la plupart des économies, notamment les pays émergents, et partiellement la zone euro, Jean-Marc Chardon.
Oui, alors on voit tout de suite quel est le diagnostic de la croissance, tout de même toujours, mais plus au même tempo. Pour l'économie mondiale, l'année devrait s'achever autour de 3,7%. C'est 2 points de moins que prévu dans les estimations de début d'année. Alors, qui sont les pays les plus à la peine? Une partie des émergents, Turquie, Argentine, Afrique du Sud en premier lieu, eux qui ont vu la valeur de leur monnaie dégringoler. Fragilisée indirectement par les tensions commerciales, le plus inquiétant, c'est pour la Turquie qui risque de voir sa croissance chuter de moitié cette année et récidiver l'année prochaine, alors que l'Afrique du Sud et l'Argentine devraient s'en remettre. On fera pas une généralité non plus. Le Brésil, l'Arabie Saoudite sont sur une pente ascendante, quand l'Inde, elle, continue de faire exception avec un taux de croissance qui a passé la barre des 7%. Elle fait maintenant mieux que la Chine. On voit donc que le tableau est assez contrasté, mais que les déséquilibres pourraient s'accentuer. Quant à la zone euro, elle n'est pas épargnée non plus, avec une croissance qui plafonnerait à 2%. La France faisant pâle figure, elle pourrait terminer l'année à 1,6%, loin, bien loin des espoirs précédents. Le paradoxe dans tout ça, c'est que les principaux protagonistes de la guerre commerciale semblent relativement à l'abri. États-Unis et Chine enregistrent de bons chiffres et devraient conserver un rythme soutenu l'année prochaine. À prendre toutefois avec précaution, de trimestre en trimestre, les fluctuations peuvent être considérables.
Jean-Marc Chardon, au Venezuela, la situation est chaque jour un peu plus catastrophique. La crise économique, politique et sociale entraîne la fuite de milliers de Vénézuéliens vers les pays voisins. Mais Amnesty International s'alarme aussi du sort des jeunes dans le pays. L'an dernier, note Amnesty, 95% des victimes d'homicide étaient des jeunes gens de 12 à 44 ans. Des jeunes tués à cause de l'insécurité ou parfois victimes des forces de sécurité, Nadine Epstein.
Oui, bien que depuis 17 ans, le Venezuela ait lancé 17 programmes pour la sécurité publique, le pays connaît le 3e taux d'homicide le plus élevé au monde, derrière la Syrie et le Salvador. En 2016, il y a eu plus de 4000 exécutions extrajudiciaires et presque pas ni enquête ni sanction. Le taux d'impunité avoisine les 90%. Amnesty International dénonce une nouvelle fois aujourd'hui cette violence endémique, mais l'ONG des droits humains pointe un système qui cible et tue les jeunes et les pauvres des quartiers vulnérables. Geneviève Garrigos.
La cartographie aujourd'hui des homicides qui sont perpétrés au Venezuela montre clairement que la très grande majorité touche à la fois des quartiers populaires et notamment de la côte nord-ouest du pays, et que derrière ce sont essentiellement des hommes, puisqu'ils sont plus de 95%, même si on constate que le nombre de femmes et le nombre d'enfants qui sont assassinés est en augmentation. Ces hommes sont jeunes, hein, entre 12 et 29 ans, et on a constaté que ces opérations, avec des interventions de l'armée, avec l'intervention de chars, de matériel lourd, c'est tout un système aujourd'hui qui fait que le gouvernement rajoute de la violence, et cette violence aujourd'hui au Venezuela pousse aussi nombre de Vénézuéliens à l'exode.
Et la situation devient de plus en plus critique. Selon l'ONU, 2,3 millions de personnes ont fui depuis 2014. Ces dernières semaines, des centaines de réfugiés vénézuéliens sont coincés entre les frontières des pays d'Amérique latine, faute de papier.
Nadine Epstein. Marine Le Pen compare la France à un État totalitaire. La présidente du Rassemblement national refuse de se soumettre à une expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre d'une enquête La Vison. Il y a 3 ans, elle avait diffusé sur Twitter des images et des vidéos de tortures et d'exécutions perpétrées par l'organisation État islamique pour les dénoncer. Elle a été mise en examen pour diffusion de messages violents susceptibles d'être vus ou perçus par un mineur. L'expertise psychiatrique fait partie de la procédure. Elle vise notamment à vérifier si la personne est pleinement consciente de ce qu'elle a fait. Mais Marine Le Pen prévient, elle n'ira pas.
Je note que dans les régimes totalitaires, c'est une des méthodes qui est utilisée contre les opposants, les faire passer pour des fous. Quand on est en désaccord avec le système, on ne peut être que malade mental. C'est très grave. Et je ne vous cache pas que je commence à trouver ce régime un peu inquiétant. Je n'irai pas, bien entendu, me soumettre à cette expertise psychiatrique, et j'attends de voir comment le magistrat entend m'y contraindre. Mais ça commence à faire beaucoup. Moi, j'attire l'attention des Français sur le coup d'arrêt, peut-être qu'il faut mettre, et qu'il rappelle que nous sommes dans une république et dans une démocratie, car j'ai le sentiment que certains ont tendance à l'oublier.
Alors, dans les faits, quand une personne refuse de se soumettre à un tel examen, l'expert se borne à constater son absence. La justice n'a pas de moyens coercitifs en la matière. Rappelons que Marine Le Pen est également mise en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs au Parlement européen. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir.
Lorsqu'elle dénonce un acharnement judiciaire et politique digne d'une dictature, est-ce que Marine Le Pen est crédible?
Eh bien, disons qu'il y a quelque chose d'assez incongru, c'est vrai, à ce que la justice ordonne une expertise psychiatrique afin de vérifier si la finaliste du second tour de l'élection présidentielle a bien toute sa tête. Si ça fait partie de la procédure, on peut le comprendre, mais était-ce bien nécessaire? Maintenant, concernant les propos tenus par Marine Le Pen sur le fait que ce serait digne d'un pays totalitaire, on est là dans une forme d'outrance, et ça n'a rien de nouveau au Rassemblement National ex-Front National. Tout comme il n'y a rien de neuf au fait que Marine Le Pen joue la victimisation dans cette affaire. Ça fait plus de 30 ans que le Front National se victimise. Jean-Marie Le Pen a grandi politiquement en se victimisant. Sa fille a suivi la même recette pour continuer à prospérer. L'idée étant de faire à croire qu'il y a une forme de complot de ceux qui sont au pouvoir, associés à ceux qui font vivre les grandes institutions de ce pays, pour empêcher le Rassemblement National d'accéder aux responsabilités. C'est une recette qui fonctionne, puisqu'elle a permis d'asseoir durablement le Front National comme une force politique de premier plan, mais qui a tout de même aussi ses limites, puisqu'elle s'adresse à cette partie des électeurs qui se sentent eux aussi des victimes du système. Dès lors, cette posture consacre en quelque sorte le Rassemblement National comme un parti anti-système, et en fait un parti pour lequel on vote non pas par adhésion pour ce qu'il propose, mais par répulsion pour les autres formations politiques.
Stéphane Robert, nous sommes le grain de sable qui a permis d'enrayer la mécanique macroniste. Ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon ce matin devant son groupe parlementaire dans son discours d'ouverture des 2 jours de séminaire à l'Assemblée nationale. Un rendez-vous à huis clos qui s'est ouvert donc par une allocution du chef. Sophie Delpont, bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Luc Mélenchon a dressé un bilan de l'action des 17 députés La France Insoumise à l'Assemblée, et surtout, il voulait préparer les prochaines GC et échéances.
Oui, nous continuerons d'être les éclaireurs, ceux qui expliquent sans relâche, avec sa verve habituelle. Le président du groupe parlementaire France Insoumise a salué donc l'action de ses lieutenants, même s'il commence son intervention en soulignant l'extrême fatigue liée au rythme parlementaire revenu, notamment lors de l'examen de la loi alimentation le week-end dernier.
On a renoué avec le cycle des horaires incroyables, puisque nous avons terminé à 5h du matin, l'examen de cette loi.
Il engage ses troupes à rester mobilisées autant dans l'hémicycle que dans la rue, appelant aussi les organisations syndicales à se regrouper pour la journée interprofessionnelle contre la réforme des retraites le 9 octobre prochain. Mais c'est surtout dans la perspective des élections européennes que le chef de file de la France Insoumise inscrit cette bataille des retraites et développe son argumentaire.
Dites-moi comment l'élection européenne ne pourrait pas être un référendum anti-Macron. Pas simplement parce que les gens auront une bonne occasion de mordre la main qui les bat, mais parce que cette réforme des retraites est celle que demande la Commission européenne. Par conséquent, ce sur quoi on va voter, ce n'est pas sur la lettre au Père Noël que M. Macron aura écrite en Europe, ni la comédie dans laquelle il essaye de nous enfermer de la bataille entre les prétendus progressistes et les soi-disant nationalistes, mais ça va être la bataille concrète pour ou contre le mode de vie dans lequel nous évoluons, pour ou contre les règles de solidarité auxquelles nous croyons.
Nous voulons envoyer un commando de combat au Parlement européen, lance Jean-Luc Mélenchon, qui en profite aussi pour contre-attaquer sur le thème des migrants face aux candidats du Parti communiste. Nous ne pouvons pas accepter que l'immigration soit le débat majeur de cette élection, parce que ça n'est pas vrai, martèle Jean-Luc Mélenchon, qui répète préférer mettre en avant deux axes pour sa campagne, l'environnement et le partage des richesses.
Sophie Delpont, François de Rugy l'a confirmé cet après-midi à Pau, deux ours slovènes vont être très prochainement réintroduits. Produite en Pyrénées-Occidentales. Le nouveau ministre de la Transition écologique s'inscrit en cela dans la continuité de son prédécesseur Nicolas Hulot qui avait lancé le plan Ours en mai dernier. Mais cette annonce provoque la colère des opposants au retour des ours dans la région. Le reportage de Stéphane Iglisis.
Dès que le ministre de l'Environnement François de Rugy a annoncé la réintroduction de deux ours femelles slovènes, 11 maires et un député socialiste présent sont sortis de la préfecture pour marquer leur désaccord. C'est une décision politique selon le député PS David Abi.
Ils veulent démontrer que François de Rugy est capable d'aller plus loin que Nicolas Hulot. Ils veulent démontrer que Nicolas Hulot a eu tort de quitter le gouvernement et que La République En Marche, c'est les Verts plus. C'est un décalage profond entre le 7e arrondissement de Paris, incarné par le ministre et ses collaborateurs, et un territoire qui est fort de ses convictions, qui en même temps a toujours été protecteur de l'environnement. La ligne jaune, chacun l'aura compris, c'est la violence. Il faut que les choses se fassent dans le respect du droit. Mais dans le respect du droit, il y a aussi matière à exprimer une opposition à la décision technocratique et très parisienne du ministre.
Gérard Cossimon est président du FIEP, le Fonds d'intervention éco-pastorale, et ce naturaliste se réjouit de cette décision.
Lorsque j'ai commencé à militer, cette année ça va faire 40 ans, pour l'ours, il y avait une quinzaine d'ours. Aujourd'hui, il n'en reste plus que deux. Là, on va remettre deux femelles. Ça va permettre de repartir sur une dynamique de vie. C'est ce qui compte. Après, on pourra être satisfait le jour où on verra qu'effectivement, il y a des naissances et qu'il y a un noyau de population qui commence à grandir. Il faut maintenant aussi que les choses s'apaisent et que certains leaders locaux arrêtent de prendre l'ours comme bouc émissaire pour effectivement mobiliser leurs troupes.
Denis Fourcade est éleveur de brebis à Lourdios-Sichère et il remarque que son métier est déjà difficile sans l'ours.
Ça veut dire que moi, à l'heure actuelle, je travaille tout seul sur la ferme. Et autrefois, pour faire le même travail que moi, je fais tout seul, ils étaient 3 ou 4 sur les fermes. Et à l'heure actuelle, on est tout seul, dont une conjointe qui travaille à l'extérieur, parce qu'économiquement, c'est compliqué. C'est ça qui me fait peur. Alors, c'est pas le fait de garder les brebis. Vous pourriez y être jour et nuit. Un jour ou l'autre, vous vous faites avoir et vous vous faites attaquer.
Les deux ours slovènes doivent d'abord être capturés avant d'être réintroduits en Béarn d'ici à début octobre, en toute discrétion, a admis le ministre.
Stéphane Iglesis, à Pau, l'agence du médicament met en place un numéro vert pour renseigner les patients sur l'androcure. Il y a plusieurs semaines, une étude de la Sécurité sociale avait montré l'augmentation des risques de tumeurs au cerveau lors de la prise de ce médicament. L'androcure est prescrit notamment aux femmes pour combattre une pilosité excessive ou l'endométriose. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir Aurélie.
Il n'est toujours pas question d'interdire le médicament, mais sa pratique est désormais plus encadrée et les professionnels de santé sont appelés à la vigilance.
Oui, l'androcure s'oppose à l'action des hormones mâles. C'est aussi un médicament capable de ralentir la croissance des cellules de la prostate. Il est donc indiqué, dit le dictionnaire Vidal, qui reprend les recommandations de l'agence du médicament, en cas, vous l'avez dit vous aussi, de pilosité excessive chez la femme ou de cancer de la prostate chez l'homme. Dans sa notice, le Vidal explique qu'il n'est pas question de l'utiliser contre l'acné, ce qui est parfois le cas, ni pour des personnes transgenres. Parmi ces effets indésirables, il est bien noté risque de méningiome, donc d'une tumeur cérébrale bénigne. Le Vidal mentionne une étude récente ayant montré un accroissement du risque, mais ne donne pas les chiffres. Sur le site de l'agence du médicament de l'ANSM, en revanche, on tombe assez vite sur une lettre à destination des endocrinologues et autres professionnels de santé où il est fait mention de l'étude de la sécurité sociale sur 250 000 femmes. 7 fois plus de risque de méningiome pour 6 mois de traitement, 20 fois plus au bout de 5 ans. Les professionnels sont donc invités à informer pour l'instant leurs patients et à limiter les prescriptions aux seuls cas de pilosité excessive et cancer de la prostate. 5 femmes vont porter plainte contre les laboratoires Bayer, a dit leur avocat vendredi. Toutes ont été opérées d'un méningiome et certaines ont gardé de graves séquelles. L'agence du médicament a reçu une centaine d'appels depuis ce matin, depuis la mise en route du numéro vert. Elle réunit le 1er octobre un comité d'experts indépendants pour revoir les recommandations d'utilisation de ce médicament. L'agence européenne est elle aussi saisie de la question par la France.
Et puis cette dernière information, aux États-Unis, on vient d'apprendre qu'il y avait eu une fusillade mortelle dans le Maryland. Plusieurs personnes ont été tuées dans un centre de distribution de la chaîne de pharmacie Rite Aid à Perryman, dans le Maryland. Donc, selon la chaîne NBC, l'auteur des tirs était une femme qui a été abattue par la police. On ne dispose pas pour l'instant d'un bilan plus précis. Demain, vendredi, le soleil sera encore généreux sur le sud-est. Ailleurs, le ciel sera souvent couvert avec des passages pluvieux. Il fera entre 12 et 20 degrés le matin, 17 à 26 l'après-midi, 26 à 30 sur la façade est. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.